Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
La naissance discrète de Jésus à Bethléem, petite bourgade perdue de Judée, est un des grands récits de commencement de la Bible. Selon la tradition chrétienne, cet événement unique marque la transition entre le Premier Testament et le Nouveau, sans rompre la continuité narrative du grand récit biblique. Les évangélistes affirment que la mise au monde de Jésus par Marie se réalise selon les Écritures. En ce temps de l'Avent, nous proposons à nos éditeurs de vérifier cette continuité et cet accomplissement en relisant deux grands textes extraits des Deux Testaments. Aujourd'hui, un texte du prophète Isaïe, et la semaine prochaine, un texte de l'Évangile de Luc. Dans l'incontournable cantique de Noël « Il est né le divin enfant », nous chantons « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes ». L'un d'eux, Isaïe, vivait au 8e siècle avant Jésus. C'était probablement un notable de Jérusalem qui fréquentait la cour du roi de Juda. Le texte que nous allons relire aujourd'hui fait partie d'un recueil souvent appelé le « Livret de l'Emmanuel » et qui est intégré au livre d'Isaïe. Il se trouve au chapitre 7, versets 10 à 17 dans la Bible de Jérusalem. Yahvé parla encore au roi Akaz en disant « Demande un signe à Yahvé ton Dieu au fond, dans le Shéol ou vers les hauteurs au-dessus. » Et Akaz dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas Yahvé. » Isaïe dit alors « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda, le roi d'Assur. » La fin du texte fait allusion au contexte historique. Pouvez-vous, Père Alain, nous préciser brièvement ce contexte politico-militaire et l'implication du roi Akaz, principal personnage du récit ?
Oui, c'est vrai que avec les prophètes, on entre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un prophète n'a de sens que parce qu'il s'inscrit dans une période déterminée d'un temps. Et Isaïe, c'est un des premiers, avec Osée, qui va nous ouvrir des chemins de signification, qui va être un porteur au fond du message de Dieu dans des situations historiques concrètes. Et ici, nous avons des dates, on connaît les dates. Là, nous sommes, autant avec Abraham, nous avions des incertitudes. Ici, nous sommes dans des certitudes historiques. Isaïe apparaît à l'époque du roi Akaz. Isaïe, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui vit à Jérusalem, qui est dans le contexte du monde royal. Et avec Akaz, il va essayer de, de le faire bouger par rapport à des situations historiques de l'époque. Pour le résumer en deux mots, parce que je crois que si on veut comprendre ces textes, il faut toujours les resituer dans l'histoire. C'est à la période où la Syrie est très menaçante et la Syrie est en train de vouloir attaquer à la fois les pays du Nord, les pays aussi de la Palestine, Israël, qui est séparé de Juda, comme vous savez, il y a eu la rupture, hein, il faut tenir compte de cela, et Israël va s'allier avec d'autres pays, et ils veulent obliger le roi Akaz à s'unir avec eux contre Sennacherib, la Mésopotamie. Et là, Dieu envoie le prophète pour donner des consignes au roi qui sont inspirées par la foi, et c'est là que se joue ce texte que nous avons écouté tout à l'heure.
Mais est-ce que Isaïe avait un réel pouvoir d'influence sur le roi Akaz? Est-ce qu'on le sait?
C'est toujours difficile à dire. Vous savez, les prophètes, ce sont les figures qui parlent au nom de Dieu. Le roi, il est ce qu'il est. Et si vous avez une familiarité avec le monde biblique, vous saurez que quand on fait la liste des rois, la plupart d'entre eux finissent leur curriculum, on pourrait dire, par ces mots, et il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé. C'est-à-dire, la plupart des rois n'ont pas été fidèles, Akaz encore moins. N'oubliez pas, pour prendre un exemple, on a ça dans la version du livre des rois, parce que les livres des rois nous donnent une version qui nous aide à comprendre aussi notre passage, c'est que Akaz, pour essayer de triompher de ses ennemis, va sacrifier un de ses enfants. Et donc il va le faire mourir. C'était l'époque où on pouvait sacrifier des enfants pour essayer d'attendrir Dieu, si on peut dire. Aujourd'hui, bien sûr, on ne dirait plus ça, mais Akaz n'avait rien d'un roi pacifique et d'un bon roi. Il a cherché à s'allier à l'Égypte contre le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et puis contre d'autres villes. Et ça va nous donner naissance à ce beau texte que nous avons, que nous allons sans doute un peu commenter maintenant.
Alors, il est généralement considéré comme un oracle. Et son décryptage n'est pas facile. Dès le début, Dieu parle au roi Akaz en disant « Demande un signe à Yahvé ton Dieu ». Que faut-il entendre ici par « signe » Pourquoi doit-il venir du Sheol ou des hauteurs, ce signe?
Bon, c'est une manière de... Quand on parle de Sheol et de la hauteur, c'est une manière de globaliser pour les choses. Demande un signe, c'est-à-dire fais confiance, parce que c'est ça qui est derrière. N'oubliez pas, Isaïe a reçu mission. Le chapitre 6 qui précède notre passage, c'est l'envoi. Comment il a fait l'expérience de Dieu dans le temple, vous vous rappelez de ce passage. Et donc, il a mandat de la part de Dieu de demander au roi Akaz d'être fidèle, de faire un signe. Alors bien sûr, il y a des enjeux politiques. Même les prophètes ne sont pas à l'abri des enjeux politiques. On finit, nous, peut-être par ne pas s'en rendre compte, mais il y avait des enjeux. Faut-il s'allier avec le pays du Sud? Ou bien faut-il s'allier avec le Nord? Ça a toujours été le destin d'Israël. Il est pris entre deux. Il y a l'Égypte d'un côté, au Sud, puis de l'autre côté, il y a la Syrie. Et il y aura des choix successifs, au fond, qui font que les prophètes vont déterminer les choix. Ici, le prophète voudrait lui interdire de faire le choix qui est fait par les gens du Nord, par la Samarie, et donc par Damas aussi, parce que c'est Damas qui sont menacés par la Syrie. Donc il y a des enjeux politiques, mais bien sûr, notre texte, par sa force, par sa puissance, par son côté aussi allusif, nous ouvre des chemins qui vont au-delà du temps politique. Et c'est là sans doute que le signe qui est donné, il le refuse, non pas parce qu'il est fidèle à Dieu, mais parce qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu du prophète. Et donc, c'est le prophète qui va l'obliger, il va lui dire, bien voilà le signe qui te sera donné. Et c'est ce que vous avez lu sur la Vierge qui va enfanter.
Alors effectivement, ce que vous venez de dire confirme que les rois ne font pas souvent ce que Dieu veut, finalement. Hein. Là, on en a un bel exemple. Alors, face à ce refus d'Akaz, Isaïe le sermonne et lui annonce quand même le signe de Dieu. En quoi consiste ce signe? C'est le fameux verset 14. « Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans le contexte historique du texte, qui peut être cette jeune femme? Est-ce la femme du roi Akaz? Est-ce celle du prophète Isaïe? Ou bien une autre femme? Que peut-on dire?
Ce que l'on peut dire, si vous voulez, c'est que le mot hébreu qui est utilisé pour dire la femme, ça désigne une jeune femme. Une jeune femme. Et cette jeune femme, on peut penser sans doute que le prophète lui annonce la naissance d'un enfant qu'il aura par le roi Akaz, et que cet enfant va être celui qui sera porteur d'une espérance. Et c'est donc ce à quoi le roi se refuse. Et il fait semblant de respecter Dieu, mais en réalité, il a déjà fait son choix contre le choix de Dieu et du prophète. Et donc, c'est là que le prophète va être obligé d'insister pour lui dire, eh bien, puisque tu n'en veux pas, Dieu va te donner le signe, la Vierge va enfanter. Et avec tous les détails que vous avez donnés en lisant le texte tout à l'heure.
Alors, on évoque aussi cette femme qui va avoir un enfant, Emmanuel. Alors, le texte dit quelque chose d'étrange. Il aura un régime alimentaire spécial à base de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Comment peut-on interpréter ce verset 15 ?
Bon, ça reste assez mystérieux. Hein. Ça veut dire donc qu'il ne pourra avoir un rôle effectif dans le destin que Dieu lui promet que quand il aura atteint l'âge de raison, on peut dire. Donc, cette idée de la nourriture, il y a souvent des allusions un peu mystérieuses avec le lait, avec le miel, enfin, quelque chose qui annonce, au fond, un jeune roi qui va réussir à vaincre les ennemis, en particulier, même si on sait que ça se terminera mal pour Akaz et pour Jérusalem, parce que la Syrie, de fait, va envahir la Palestine, va conquérir Damas, va conquérir la Samarie et va menacer Jérusalem. Et Jérusalem, mystérieusement, on ne sait pas très bien pourquoi, les Assyriens vont partir et on va voir là un signe de quelque chose de positif, mais en réalité, la Samarie, la Syrie reviendra et Jérusalem aussi tombera entre les mains des Assyriens. Donc c'est une étape qui est au-delà même de notre texte. Notre texte, il ouvre une espérance. Et au-delà même de tous les drames qu'Israël va connaître, ce texte va vivre. Ce texte de l'annonce d'une jeune femme qui va donner naissance à un fils qui sera un roi extraordinaire, ça va traverser les siècles. Et donc, chaque fois que les Juifs vont méditer sur ces textes, en parlant de cette jeune femme, ils vont évoquer, au fond, le Messie qui va venir. Et cette figure de la jeune femme donnant naissance à un enfant prédestiné va traverser les siècles. Elle va rejoindre même les chrétiens, mais avec une autre problématique, comme on va pouvoir le regarder maintenant.
Oui, alors effectivement, ces interprétations messianiques que vous évoquez, elles se sont faites un peu en deux temps. Il y a d'abord les Juifs qui ont dit des choses, et notamment au moment de la traduction de la Bible hébraïque en grec, la fameuse Septante dont nous avons déjà parlé, où la jeune femme du texte hébraïque est devenue la Vierge. Alors, les traducteurs juifs du IIe siècle avant Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont fait une erreur de traduction ou est-ce qu'ils ont fait une interprétation ?
Alors, c'est pas facile à répondre à votre question de manière aussi directe, si vous voulez. D'abord, disons, on l'a déjà évoqué, mais je crois qu'on ne le dira jamais assez, cette traduction de la Bible hébraïque a été un fait extraordinaire. C'est la première fois qu'on ose traduire la Bible de l'hébreu à une autre langue. La Bible était considérée comme étant exclusivement vécue, priée, méditée dans la langue hébraïque. Et encore aujourd'hui, on a souvent eu cette réaction en disant « il faut garder l'hébreu, l'hébreu c'est la langue de Dieu ». Et c'est vrai, c'est Dieu. La Bible a été transmise, a été écrite en hébreu, même s'il y a de l'araméen aussi quelquefois, mais c'est surtout de l'hébreu. Alors, avec la Septante, alors peut-être redire pour ceux qui l'aurait un peu oublié, 70 ça veut dire 70 ou 72, ça dépend. C'est une légende, hein. C'est ce qu'on appelle la légende qui a été écrite par Aristée, qui était un auteur du 2e, 3e siècle, qui a raconté une légende merveilleuse selon laquelle on aurait isolé sur une île 70 ou 72 spécialistes de l'hébreu qui auraient traduit la Bible et qui, lorsqu'ils ont rendu le texte, auraient manifesté une sorte de miracle où chacun l'avait traduit de la même façon à la perfection. Alors évidemment, c'est une légende. Et ici, nous sommes justement dans une légende intéressante. Car on a le sentiment, si on fait une lecture un peu rigoureuse de ce texte, que l'auteur qui a traduit ce passage a fait un contresens. Puisque en hébreu, il n'y a aucun doute, c'est une jeune femme, et dans le texte grec, c'est devenu une parthénos, une vierge. Donc, comment a-t-il passé d'une jeune femme à une parthénos? Est-ce que c'est une erreur de traduction? On a souvent ce débat, et il s'est beaucoup développé, en particulier entre Saint-Augustin et Saint-Jérôme. Saint-Jérôme ne connaissait pas Saint-Augustin ne connaissait pas l'hébreu, et souvent il demandait, posait des questions à Saint-Jérôme pour savoir si le grec était inspiré. Et Saint-Jérôme, un peu agacé, lui répondait « Le grec est inspiré seulement quand il suit l'hébreu ». Évidemment, Augustin allait beaucoup plus loin. Ici, est-ce qu'il est inspiré? Pourquoi ont-ils choisi de mettre vierge? Ils savaient bien l'hébreu, ils savaient bien le grec. Pourquoi, à la place de jeune femme, ils ont mis hébreu? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui émerge, une espèce d'espérance, au fond, d'une jeune femme qui viendra d'ailleurs, qui ne sera pas engendrée comme les autres enfants? Ça peut être un mystère. Toujours est-il que, bien sûr, le christianisme va s'emparer de ce passage-là, qui va devenir un passage clé pour comprendre la naissance virginale de Jésus par la Vierge Marie.
Alors effectivement, cet oracle d'Isaïe, ouais, il a été repris dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, 21-23. L'ange du Seigneur dit à Joseph, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Donc là, on a vraiment la citation mot à mot d'Isaïe. Comment cette interprétation a-t-elle pu se développer dans les premières communautés chrétiennes?
Alors, soulignons d'abord, puisque vous le dites à l'instant, ce Emmanuel, en hébreu, ça veut dire Dieu avec nous. Voilà. C'est ça le sens de Emmanuel. Et donc, cette phrase qui était dite au chapitre 7 d'Isaïe, elle est reprise par Matthieu, c'est Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Et la naissance de Jésus va être interprétée non plus à partir de la langue hébraïque, mais à partir du grec, comme vous le soulignez. Pourquoi ce glissement? De cette manière, n'oubliez pas que les premiers chrétiens n'avaient que la Bible grecque sous les yeux. Donc, ils ne savaient pas que dans le texte hébreu, il y avait jeune femme. Donc, ils n'ont que, comme version, la Vierge. Alors, est-ce que s'ils avaient eu l'hébreu, ils auraient dit la même chose? C'est un mystère. Mais il y a là quelque chose d'étonnant. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser, parce qu'on a quelquefois débattu, on se dit, est-ce qu'ils ont pu faire des erreurs de traduction? Oui, c'est pas impossible, hein, parce que traduire, c'est difficile de traduire. Quand ils ont traduit, est-ce qu'ils ont pu se tromper? Mais moi, j'ai du mal à croire que leur connaissance de l'hébreu et de grec était telle qu'ils n'ont pas fait la différence entre jeune femme et vierge. Donc, c'est choisi, c'est voulu. Est-ce que c'était une perspective, au fond, d'un fils qui adviendrait de manière différente des autres? Toujours est-il que pour les premiers chrétiens, ça va être un rebond qui va leur permettre de voir des annonces du Christ, au fond, déjà dans le prophète Isaïe. Et donc, pour nous, c'est la lecture, c'est la jeune vierge qui naît et qui donne naissance au Fils. Et ce thème de la virginité mariale, bien, il est sorti d'une certaine manière de ce passage d'Isaïe.
Merci beaucoup, Père Alain. Nous voici arrivés au terme de cette première émission consacrée aux Écritures de Noël. Merci aussi à Christophe Aubry à la technique. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprasence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures qui sera le deuxième volet de cette relecture des Écritures de Noël. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.